3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais vu.
Et bonjour à tous, chers Trekkies et Trekkies. Vous êtes à l'écoute de Parlons Trek sur puissance maximale, l'émission qui arrive que, ben, quand ça est tente à vitesse impulsion numéro 3.
Impulsion
3, on dit à demi-impulsion.
Ah non, uniquement sur les thrusters.
Mais ça n'empêche pas qu'on continue de faire du contenu pour vous quand même, pour vous tenir informés et nous donner nos opinions si ça vous intéresse. En
tout cas, si on avance, on ne recule pas.
C'est ça. Ben, c'est dur de reculer par en avant.
Je vais c'est faisable.
Je vais te la donner, là, mais c'est ça. Là, c'est, Marc et moi ensemble, bon, je pense qu'on va finir par trouver un moyen.
Ouais. On travaille sur le sujet.
Exact.
Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais premièrement, Pierre a fait l'expérience de sa vie. Ou du moins de l'année, là, je pense. Là, ce que j'ose espérer. On a vraiment sorti Pierre du pays. Fait que ça a été calme au Canada pendant 24 heures, pendant peut-être 48 heures. Là.
72 heures.
72 heures, bon.
C'était la troisième fois que je quittais le pays, okay. Mais c'était la première fois que j'y allais en conduisant moi-même.
Bon, c'est quand même pas pire. On va en reparler tantôt. Patricia est présentement occupée à border le petit Stella. Pierre va nous revenir avec ses impressions de fan de Next Generation sur cette visite des décors de la série originale. Et je pense que tu as quand même bien apprécié ton temps là-bas.
Absolument. Et je vais vous parler aussi d'un autre endroit où on a été en revenant au Québec.
Oh! J'ai hâte d'entendre ça. Et c'était pas un Walmart.
Non. Non, par exemple, alors qu'on était encore aux États-Unis, on a arrêté au Target. Et ça a valu la peine.
Ben oui, ben ça vaut toujours la peine. Ben d'ailleurs, tu t'es trouvé une SNS mini à bon prix là-bas.
Très bon prix.
C'est drôle parce que cette semaine, les NES mini sont revenus, les NES classiques sont revenus sur le marché. Et j'ai même réussi à moi-même à mettre la main sur une. Donc, je suis pas un grand fan de Nintendo, mais c'est quand même le fun à avoir. Il n'y a rien comme jouer au Nintendo avec la vraie manette originale. Là.
Messieurs, nous sommes désormais en présence d'une dame.
Oh, ah, bonjour Patricia.
Bonjour Patou.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui. Donc, ben écoute, maintenant que tu es là, Patricia, on peut peut-être commencer à en parler tout de suite dans ce cas-là de ce fantastique voyage.
Oui. Chamblons donc toutes les.
Les plans au diable, les plans. Mes chers invités, quels ont été, prenez un peu de votre voyage en général et évidemment de cette journée le samedi dernier, là, comment ça s'est passé pour vous? Là?
Ben, nous autres, on était partis le vendredi sous un temps assez maussade. Le chemin, ça a étonnamment bien été aux douanes, autant à l'entrée aux États-Unis que le retour au Québec. Je vais parler du retour un peu plus tard, c'était quand même assez amusant. Mais non, se rendre là, ça va très bien. C'est des petits, c'est de la grande route de campagne, puis après ça, de la petite route de campagne, ouais. Puis on va arriver dans une petite ville de campagne.
Moi j'ai beaucoup aimé Ticonderoga, vraiment une belle petite ville américaine typique, tranquille.
Ça plus typique que ça. C'est ultra typique.
Avec la petite bibliothèque, avec le petit drapeau, là, la mairie et tout ça, un peu comme dans les films. Là.
Les camions de pompiers.
C'est ce qu'on appelle de l'Americana à sa plus pure expression. Là.
Absolument.
Ah oui, puis quand tu te promènes sur le trottoir le matin, tout le monde te dit « good morning », avec le gros sourire d'en face. Ça fait vraiment petite ville américaine, mais vraiment charmante comme ville. Beaucoup de petits restaurants sympathiques aussi. Moi, j'ai bien aimé là, le café, je pense que c'est chez Libby ou Lydie, en tout cas, j'ai oublié le nom.
Il était correct, mais j'ai vraiment préféré le dinner aux années 50, puis le petit pub aussi.
Ouais, il y avait un petit pub aussi sympathique, il y avait un petit resto années 50. Bien aimé. Puis les gens étaient très sympathiques. Ça, c'est pour la ville, mais on peut parler aussi.
En tout cas, on peut comprendre pourquoi James a voulu s'installer là.
Ouais, ben c'est sûr. Ben,
c'est sûr que c'est sa ville d'enfance, mais c'est tellement plaisant tout le support qu'il y a là-bas de la ville au complet. Ils savent que ça rapporte beaucoup.
Justement, Star Trek a amené beaucoup d'argent dans la ville et ça va continuer dans les années qui s'en viennent, donc ils seront très heureux de ça. Mmh.
Puis, on est arrivé évidemment sur place. C'était quand même vraiment sympathique. C'était juste dommage que la pauvre navette à l'extérieur était endommagée.
je pense qu'elle était en construction parce qu'elle n'était pas là l'année passée.
Ouais.
Elle va être plutôt en reconstruction parce que d'après moi, elle a été transportée quelque part puis elle a été.
Ça me donnait l'impression qu'il y avait eu un orage ou un coup de vent qui l'avait endommagée.
Mm-hmm. Elle va vraiment endommagée. Mais bref, c'est un détail. Dès qu'on rentre dans la place, on est vraiment subjugué par les ennemis en taille réelle. Les représentations d'ennemis en taille réelle, moult représentations aussi en taille réelle et pratiquement identiques d'un paquet de props de cette époque-là, avec des photos à l'appui, des signatures de toutes les gens qui ont rapport à Star Trek qui ont été là, avec des photos.
La grosse caméra.
Ah oui, la grosse caméra. Dès le début, moi, je trouvais ça un peu étrange, par exemple, les espèces marquées, les espèces de faux extérieurs de décors. En fait, je voyais un plywood avec quelque chose de bizarre marqué dessus.
Ouais.
Studio, je sais pas trop quoi.
C'est Studio 9.
Ouais, c'est le 9, là, moi.
Ouais, Studio 9 des Illus, là, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est le genre de plywood que tu vois sur des décors de studio, là.
Mais c'est une fois qu'on rentre, mon Dieu, on n'est plus au 21e siècle. On est retourné en 1960. Là.
On retourne en 1960, mais dans Star Trek, dans le futur.
Oh,
retour vers le futur, carrément.
Ben, oui. Faut vraiment vouloir, là, t'sais, faut vraiment regarder complètement en haut pour voir les projecteurs LED qui émettent les couleurs, qui sont vraiment d'ailleurs absolument incroyables.
Ouais, ben c'est ça que j'ai aimé, moi, c'est que c'était son et lumière. Tu sais, t'avais le son réellement.
L'ambiance.
Et vous ont-tu expliqué tous les effets d'ombre que c'était voulu, tout était comme ça en 1966?
Oui.
Oui, ils ont mis des espèces de carton, ou en tout cas de. Je sais pas comment dire ça, de stencil.
Le genre de rosace en métal. Ouais. En carton ou en tout ça.
C'est ça, un genre de rosace, un peu comme un stencil.
C'était exactement comme ça.
C'était vraiment impressionnant. Puis, moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est quand je me suis posé la question, bon, comment ça m'a. C'est quoi ce truc-là sur le mur et que j'appuie sur le gros bouton rouge comme l'imbécile que juste. J'ai déclenché la Red Alert. Et c'est à travers tout le set.
Ouais, Red Alert a retenté à travers le titre à cause de Pierre, mais il avait bien précisé, Pierre, de ne rien toucher.
Une chance qu'il avait dit,
hein? Ça marche!
Pierre était chanceux dans sa malchance parce que c'est le seul bouton que les visiteurs ont le droit de toucher.
Ouais, ben, en théorie, on n'aurait pas été supposé.
Le bouton en dessous, par exemple, pour faire un appel, est-ce qu'il marche, lui, ou marche
pas? À ce que je sache, oui, mais encore là, c'est... Parce que c'est des vieux boutons des années 60, ils sont fragiles. Fait que... C'est pour ça qu'ils veulent pas prendre de chance, là. Parce que c'est toutes des vieilles Switch originales, là. Fait que ça vient fragile avec le temps.
Ah, ben, le bouton Red Alert, ça, je le reconnais. T'as ça dans toutes les consoles de ben, les bandes d'arcade de...
Oui.
Depuis des dizaines d'années, mais c'était vraiment impressionnant. À quel point qu'ils savaient, j'ai posé quelques questions, genre tel type de bouton, comment vous faites ça, d'où c'est que ça vient. Puis ils en connaissaient vraiment un rayon. Le genre, ils savaient comment tout était fait à l'origine parce qu'ils l'ont refait à peu près exactement pareil, de la même façon.
Ben moi,
ma déception, un peu, c'était que c'est visite guidée obligatoire. Tu peux pas te promener là-dedans. Mais je comprends pourquoi, parce que c'est tellement du matériel ancien, puis qui est vieux aussi. J'imagine que s'il y aurait des bris, ça serait trop dur à remplacer.
Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il nous disait aussi. Là, il y a des boutons là, là-dedans, que c'est des switches puis des pièces électroniques très difficiles à trouver, donc... Mais moi, je pensais peut-être leur suggérer de faire des visites comme supervisées, là, mais tu sais, comme... Tu sais, genre, tu payes la moitié du prix, mais t'as le guide qui te pousse, mais tu sais, qui n'a pas besoin de rien dire, il fait juste t'assurer que tu payes pas les boutons, tu sais.
À peu près comme nous, on a eu la chance d'avoir l'année passée. Hein.
Ouais.
Mais ça doit dépendre des guides. Il y a peut-être des guides qui sont plus by the book, là, tu sais, qui veulent vraiment pas qu'on... Parce qu'ils ont peur.
Je pense pas que ça serait une si bonne idée que ça. Non, le prix est peut-être un peu cher pour payer, mais la qualité du produit mérite ça.
Oui. Non, c'est
ça. Juste que c'est peut-être un peu rapide, par exemple.
Ouais. Parce que tu as des groupes qui te suivent un après l'autre. Fait que je comprends que tu peux pas rester là une demi-heure, mais je chantais que la fille, vers la fin, elle regardait sa montre, puis elle voyait l'autre groupe qui s'en venait. Je me sentais un peu pressé dans le temps. Moi, j'aurais resté un peu plus longtemps sur le bridge.
Ouais. Mais on a quand même passé un bon moment sur la passerelle. Là.
Moi, je me rappelle avec Léo Coudance puis Doug Dressler l'année passée, qu'on était quoi, une heure et quart qu'on achète
pas quelque chose de même. C'est surtout parce que j'ai comme demandé à Drexler puis à Okuda de s'asseoir dans les chaises puis de poser des photos. Fait que ça... C'est surtout ça qui a ralenti là, à la fin. Là.
Mais une des places là, que j'aurais vraiment voulu passer presque mon après-midi là, c'était l'ingénierie.
Ah ouais.
J'aurais voulu grimper dans échelles, aller gosser dans les affaires.
Parce que ça aurait tenu.
Non, ça aurait pas tenu là, mon poids excessif.
C'est du décor, hein? C'est
décor. Je sais, mais c'est tellement impressionnant.
Ben, l'échelle qui monte à la passerelle est très solide, par contre.
Ouais.
Ils ont fait du tournage là-dedans, là. Ça fonctionne super
bien. Apparemment qu'il y a une personne qui a eu le droit d'avoir le droit de le faire. Là.
Ouais.
Ça devait être un maigre.
Mais non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en plus, ben, Marc, toi, t'as pas encore vu les nouveautés qui ont été ajoutées.
C'est
là.
Ça, j'ai pas vu les affaires sur le côté qu'ils ont construit.
Ouais, c'est ça. Parce que, ben, Marc, Pierre, quand toi, t'as vu la version améliorée, mais nous autres, quand on était là l'année passée, on n'a pas vu, tu sais, l'autre côté de la salle des machines, là, où il y a des espèces de gros générateurs, ça, c'était pas là l'année passée.
OK.
L'endroit où il y avait la chambre de décompression dans l'infirmerie, c'était pas là.
Je dois avouer, par exemple, que la chambre de décompression était assez décevante parce que, genre, il y avait à peu près rien dedans. Bon, je comprends que c'est probablement pas à 100% fini, là. Mais tu sais, il y avait pas tant de choses que ça de super impressionnant dans la chambre de décompression. Il y avait, dans l'ingénierie, les fameux générateurs que tu me parles auraient été cool s'il y aurait eu genre des lumières dessus ou je sais pas trop quoi.
Mais il y en avait pas à l'origine, donc.
Ah non, bon.
Non.
Évidemment, pourquoi est-ce que je... En tout cas, whatever. La passerelle, ça, c'était vraiment impressionnant qu'elle soit 360. Là.
Ouais.
J'avais pas vu une aussi belle passerelle depuis mon Dieu, je vais être honnête, j'ai rien que vu trois passerelles dans ma vie. C'est-à-dire celle-là, celle dans le tour à Ottawa, qui était l'Enterprise D, Puis ouais. La passerelle qu'on s'était faite pour un fan film de Star Trek quand j'avais 20 ans. Okay, qui était fait avec des claviers d'ordinateur. Des trucs imprimés. Bon.
Fait que t'es comme passé de moins 3 à 0 à 10, tu sais.
Ouais, celle-là est vraiment impressionnante. C'est vraiment de toute beauté, surtout avec les écrans LCD qui servent pour mettre les. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y avait aux écrans dans le fond.
Puis c'était comment s'asseoir dans la chaise, Pierre?
C'était correct, mais j'aurais vraiment préféré m'installer au tableau de commande de Sulu. Tu sais que je suis un helm au fond de moi. Je suis deux choses, moi. Je suis un ingénieur et je suis un helm. Puis masser. OK, dans l'ingénierie, d'accord, c'était à peu près correct, mais le siège de pilotage, j'aurais peut-être préféré, mais j'osais pas parce qu'il avait l'air vraiment trop fragile.
Ouais, c'est des chaises des années 60 en plastique.
C'est ça. Puis l'autre cossin, c'est parce que aussi, de la façon qui est faite, le panneau de commande où est-ce que le pilote et le navigateur s'installent. Je dois avouer que je trouvais vraiment bizarre le gros truc rond, là, l'espèce d'horloge gigantesque là, au milieu. Là. J'étais d'un pas capable de comprendre à quoi ça marchait. De deux, je le trouvais vraiment envahissant comme bidule. Les acteurs devaient vraiment souvent s'enfarger là-dedans ou trouver ça que ça prenait de la place. Non, vraiment, moi, dans l'Enterprise que j'ai préféré, ça a toujours été l'Enterprise Magic. Des vieux, là, j'ai toujours préféré l'Enterprise 1A. Là.
Ouais. Celui de la colère de Cannes, on s'entend. Là.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est parce que c'était pratiquement
le même. À chaque film, pas mal. C'était la seule passerelle qui est restée pareille, c'était entre le 2 et le 3, puis encore il y a des petites différences. Star Trek 1, c'était aussi, mais il y a eu quand même des bonnes modifications entre le 1 et le 2. Star Trek 4, c'était une autre passerelle totalement séparée. Star Trek 5, ce n'était un autre. Puis Star Trek 6, ce n'était un autre aussi. Wow. Fait que. Mais Patricia.
Oui.
Peter David.
Ah, oh, Peter David.
Oui, c'est vrai. Faut pas oublier qu'on avait des.
Ben oui.
Il y avait des invités qui étaient là. Puis ça, là, c'est ce qui a fait notre journée. Parce que oui, ça a fait. C'était merveilleux d'aller là. Mais ces invités-là, ça nous a permis de pas juste que ce soit pas juste OK, une heure ou deux passées dans cette place-là. C'est ça qui nous a permis de passer notre journée. Mm-hmm. Fait que Patricia, je t'en prie, parce que c'est toi qui as été plus.
Non, ben c'est ça, moi, j'ai pu m'entretenir avec Peter David. Moi, je l'ai connu beaucoup parce que c'est lui qui avait écrit la première saison de Space Cases.
Oui.
Qui était une série de science-fiction pour enfants qui avait été produite par Nickelodeon à l'époque. Au début, fin années 90, début 2000.
Ouais.
Et moi, je l'ai connu parce que ça passait là, à Radio-Canada. Et écoute, moi, j'ai tellement. Moi et ma sœur, on a tellement aimé cette série-là. Ça a une place dans mon cœur, cette série-là, parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne série de science-fiction. C'était un mini Star Trek, en fait, pour les enfants. Ouais. C'est ça qu'il avait essayé de faire. Et puis, je pense que M. David, il était vraiment touché que je lui dise que moi, quand j'étais petite, je regardais ça. T'sais. J'ai vu comme la petite lumière dans ses yeux, parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui en parle.
Ouais.
Puis, lui, il disait que c'était des beaux moments qui avaient passé, parce que ça avait été une série qui avait été tournée à Montréal. Et puis, il disait que ça faisait partie des beaux souvenirs qu'il y avait de l'époque, là, quand il avait tourné ça avec les jeunes à Montréal. Puis il y avait George Takei qui avait participé en plus. Il faisait le rôle d'un méchant à cette époque-là.
Warlord Shang.
Ouais, il faisait le Warlord Shang, une espèce d'homme un peu les héroïdes. Mm-hmm. Qui faisait là, le méchant, si on veut, de la série. Puis, en tout cas, il y avait toute une anecdote là, derrière ça qu'il avait raconté quand George Takei s'était rendu à Montréal. Lui avait été obligé de débourser, je pense, 100$ aux douanes parce qu'il venait travailler à Montréal. Mais quand George est arrivé, oublie ça, là. les douaniers ont juste comme trop.
Ils ont été voir les représentants, justement, leur dire: est-ce que vous avez l'argent pour Monsieur Takei? Tandis que quand c'était lui, Peter David, qui était un simple scénariste, toi, tu payes.
Ouais, c'est
tu te feras rembourser plus tard.
Ouais, c'est ça, fait que...
Aïe.
Ben c'est ça, puis d'ailleurs, t'as été très gentil de m'acheter une copie de l'épisode 1, du scénario de l'épisode 1.
Ben, ça fait plaisir. Place.
Merci encore, il y a une place très très spéciale dans mon cœur. Je l'ai montré à ma soeur était jalouse.
Bon.
Ben, c'est à noter par contre que M. David a vraiment juste fait le scénario de la saison 1 parce que Nickelodeon, malheureusement, l'avait carrément mis dehors pour la saison 2 parce que... Nickelodeon,
c'est ça. Une
compagnie assez mercantile là, au final. Puis, il y avait des idées que lui avait, qu'eux autres n'étaient pas d'accord. Puis, en tout cas, je sais pas trop, il y avait eu une grève d'employés à un moment donné sur le plateau, puis il semblait dire qu'il avait quasiment été accusé que c'était de sa faute, ou je sais pas trop.
Bon.
Comme quoi, il avait craqué les employés, mais en tout cas, il semblait dire que lui, il était pour rien. Mais, en tout cas, bref, c'est lui qui a payé pour ça. Mais il est très content, pareil, là, d'avoir participé là, à cette série-là. Moi, je pense que ça mériterait une sortie DVD ou une sortie... Parce qu'on peut les retrouver sur YouTube, là, les épisodes de Space Cases. En français, c'est un cas très spatial. Ça avait été traduit comme ça. Ça avait été traduit au Québec. Puis d'ailleurs, il savait pas qu'il y avait une version française. C'est moi qui lui ai appris. Il était très surpris de ça.
D'ailleurs, ça avait été tourné à Montréal, pour la majorité, il me semble.
Oui, ça avait été tourné à Montréal avec, d'ailleurs, une actrice que j'aime beaucoup, qui est Jewel State.
Ben oui, qu'on a vu dans Serenity et Stargate Atlantis, si je me rappelle bien.
Exactement, c'était dans ses débuts, elle avait 12 ans à l'époque.
Et...
T'as le garçon qui fait le Power Ranger, qui est noir, là, Walter Emmanuel Jones.
Oui.
Qui faisait le rôle de Harland, en fait, qui était comme un des héros principaux, là, qui faisait le rôle d'un humain, évidemment. Parce que c'est un peu, cette série-là, c'est un peu comme un genre de Lost in Space, si on veut. Là. C'est des étudiants là, qui se retrouvent là, dans l'espace avec leur professeur là, à cause d'une erreur. En tout cas, la navette part, puis ils se retrouvent un peu là, perdus dans l'espace. Puis c'est tous des jeunes, là, ils ont tous comme entre 12 et 16 ans. C'est tous des ados, puis là, ils essayent de se débrouiller. Puis, en tout cas, c'est un beau petit bijou de série là, pour les jeunes. Moi, j'attends que celle-là soit un petit peu plus vieille pour la regarder, mais beaucoup de potentiel. Puis, j'ai été content de pouvoir questionner M. David là-dessus. C'est drôle parce qu'il racontait pendant son exposé, il parlait justement de George Takei qui était venu faire le tournage là, pour faire l'épisode où le méchant était présent, puis Le réalisateur, il disait hey, « Tu peux-tu lui dire de parler plus vite parce que M. Takei parle très lentement? » Il disait « mais il dit non, mais ça fait partie du personnage, il a l'air encore plus méchant, tu sais, ça lui donne de la prestance. »
Je viens de découvrir grâce à Facebook, Wikipédia, pardon, que Peter David, il avait même fait un petit rôle.
Oui, il faisait le rôle du père du personnage qui s'appelait Bova, je crois. Il avait fait comme un petit caméo, je pense qu'on le voit à un moment donné apparaître sur un écran, là, mais je pense que c'est très très bref comme apparition. J'en ai malheureusement pas parlé quand je l'ai vu, mais en tout cas, sinon, ben je suis devenu ami avec sa fille, Caroline, qui était là, très très gentille.
Sa femme et sa fille, ça a vraiment été quelque chose de spécial, parce qu'on n'a pas juste rencontré les auteurs, on a rencontré leur famille qui était là avec eux autres.
Okay.
Puis on a vraiment fait des amitiés vraiment inusitées, comme justement la femme de Peter David était extrêmement gentille, et sa fille, il a carrément eu des atomes crochés parce que c'est une otaku comme nous autres.
Ouais, ben sa fille est très fan de manga, puis tu sais, tout de suite quand j'ai vu qu'elle avait un gilet d'animé japonais, tout de suite ça a cliqué, puis on s'est mis à parler manga, puis la femme de Peter David, elle, c'est vraiment une femme d'animé japonais aussi, puis... Elle en connaissait des affaires, là. Elle connaissait même Albator, elle connaissait les anciens animés qu'on aime, là.
Ben oui.
C'était vraiment de l'ancienne époque, si on veut, là. Fait que, en tout cas, ils ont vraiment élevé une fille geek, c'est bien.
Sinon, ben, il y avait d'autres auteurs sur les lieux. Est-ce que vous avez eu, probablement pas des interactions aussi illuminées, mais...
Il y avait eu quatre panels, je pense, puis on en a assisté à trois. Celui, justement, de Peter David est vraiment excellent. Il y avait un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi.
De Candido,
Euh,
J'ai pas vu celui de Ken Lido, moi, par exemple.
C'est parce qu'on avait... Il y avait Dave Gallanter. T'avais... Bah, hey, là, j'ai de la faim, là. Je me sens mal. J'ai
fait un second, je vais retrouver ça.
J'ai oublié son nom, mais celui qui avait un... il y avait une bague de Batman et un t-shirt jaune. Là, c'était un enseignant secondaire.
Il y avait, c'est-tu Robert ou Scott?
Je pense Scott. Robert, ouais.
Robert,
parce que même Robert, je pense que c'est lui qui a écrit même un roman sur Capitaine America, si je me souviens.
Oui, parce qu'il a travaillé chez DC, là.
Oui, ben c'est ça, lui, il est très comics, là. Lui, il est un grand fan, entre autres, de Green Lantern, puis il était content, d'ailleurs, du mashup là, qui avait été fait récemment, là, Star Trek.
Oui, je l'ai dans la bibliothèque.
Oui, ben c'est ça, il l'avait même distribué au Comic Book Day, au Free Comic Book Day au mois de mai dernier.
Nice.
Et puis, justement, lui, il parlait beaucoup de son expérience avec les comics américains. Il parlait beaucoup de Star Trek. Ce qui est le fun, c'est que c'est un enseignant, c'est un professeur à l'école, donc il est très accessible lui aussi. Moi, c'est ça que je trouve bien de ces invités-là, parce que c'est des gens qui ont côtoyé les grands, si on veut, puis ils sont très, très humbles. Quand tu dis que Peter David, il a déjà été au mariage de George Takei, il a déjà été invité au mariage même de George Lucas, tu dis que c'est pas n'importe qui, là, tu tiens avec des gens qui ont... En tout cas, tu tiens avec les grands hollywoodiens de ce monde, mais tu restes humble, puis... En tout cas, ça m'a beaucoup touché. J'ai bien aimé parler avec ces gens-là. Il y avait un autre invité aussi que
j'avais
bien aimé.
C'était vraiment très proche de nous autres. Il y avait tellement des histoires intéressantes à raconter.
Il y en avait un autre invité, celui...
Il y avait Scott Pearson et Dave Gallanter.
C'est-tu Dave qui avait un problème? Je pense qu'il avait une jambe cassée ou en tout cas, il avait un problème à son pied.
Oui, ça c'est Dave, oui.
Non, c'est ça. Puis, il m'a demandé.
C'était pas sa semaine à Dave.
Mais par contre, c'était super intéressant qu'est-ce qu'il racontait. Son panel était des plus informatifs. On avait vraiment aimé ça.
Je me suis comme senti mal parce qu'il m'a demandé ce que je pensais de la dernière série de Star Trek. Puis j'ai comme dit, moi personnellement, j'aime pas ça. Je trouve ça trop sombre, tu sais, mais. Il a comme fait une drôle de face, puis t'es là, t'aimes pas ça, puis tout ça, mais je me demande, c'est-tu parce qu'il a collaboré cette série-là? Ou...
Non, je sais pas.
Non, il a pas collaboré, mais on le voit, moi, comme je l'ai dans mes contacts, lui, il l'a aimé, puis il aimait pas le monde qui la critiquait.
OK, c'est pour ça qu'il a fait une drôle de face.
Je pense que c'est surtout à cause de la polarisation en ligne. Je pense que t'aurais peut-être eu le... Tu sais, parce que dans les conversations en ligne, quand on dit qu'on n'aime pas Discovery, d'habitude, on est habitué de se faire dire « Ah, oh, c'est de la merde, tout ça. » Fait que c'est peut-être plus à cause de ça. C'est pas à cause de toi, vraiment, la réaction. C'est plus à cause de la polarisation des conversations.
Moi, j'ai bien dit. Moi, personnellement, je n'aime pas ça parce que pour moi, Star Trek, c'est positif. Puis je trouvais cette série-là négative. T'sais, je trouvais que... Pour moi, Star Trek, c'est l'espoir. C'est un futur positif. T'sais. Moi, j'en ai un peu marre des futurs apocalyptiques, des futurs où tout le monde est en guerre.
Ça, sans en reparler, mais ça, c'est pas à cause que c'est un futur positif que tout va toujours bien. Puis, il y a même DS9, il y a des passes plus sombres dans Star Trek. Puis, quand on regarde la fin, comment la première saison de Discovery s'est terminée, ça va vers quelque chose de plus optimiste. Mais ça, comme je dis, ça, on peut en reparler plus tard, mais je pense que personnellement, c'est peut-être la phase qui est faite. C'est peut-être plus par rapport à la polarisation de la conversation en ligne par rapport à Discord.
Peut-être. Mais tu sais, il n'a pas été déplaisant ou quoi que ce soit. Là, il était très poli, mais tu sais, je voyais dans sa face qu'il avait l'air déçu que je dise que j'aimais pas ça. Mais c'est comme j'ai dit mon opinion. J'ai dit une opinion. Là, c'est pas tout le monde qui est obligé de la partager. Moi, j'aime ça, Star Trek, quand c'est. Si tu veux, je suis comme ça, moi. Ouais. J'aime ça quand c'est positif.
Honnêtement, je pense que tu vas peut-être préférer la deuxième saison maintenant que la grosse histoire de guerre est passée. Je pense qu'on pourra passer à d'autres choses.
Mais de toute façon, Dave est très sympathique. Là. Il nous a invités l'année passée à aller prendre une crème molle.
Ben oui.
Ouais, on est retourné cette année encore.
Ouais. Vous êtes allé aussi?
Oui, on est allé en fait avec tous les auteurs, à part moins Peter David qui était pas là. Mais ça, ils m'ont invité, moi et Et mes sbires. En fait, parce que Dave, il avait, l'année passée, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, Marc, il avait pris une photo avec la grosse crème glacée.
La tienne, là.
Fait que, maintenant, au début de la journée, j'avais
été bébé, ça, ou...
Non, j'avais demandé une grosse crème glacée.
Il a pris le gros format qui mesurait 27 pouces de long.
Ah, mon Dieu.
J'ai fait l'erreur de demander un grand format aux États-Unis.
Non. Mais non, moi, déjà que le bébé, ça avait l'air d'une grosse, là, fait que j'imagine pas le gros format. Là.
On était obligé d'aller demander un bol pour la finir.
Ouais. J'ai demandé un médium, puis j'ai sacrément que c'était gros.
Ouais, moi aussi, j'avais pris la médium parce que j'ai vu ce qu'elle allait sortir. J'ai eu le temps de changer. Parce que JP a été servi avant moi. J'ai dit non, moi je change de format.
ça me fait penser à Spaceballs à la fin quand que Barf dit oh, je vais prendre la soupe.
Oui.
Mais non, c'est ça, mais. Non, parce qu'il dit, il change sa commande du spatial à la soupe après avoir vu l'extraterrestre sortir. Puis ensuite, il demande l'addition. Mais la joke étant que je me présente à Robert samedi matin. Puis il dit ah, moi, c'est JP. Puis, ah oui, c'est toi le gars avec la crème à glace.
Resté dans les...
Ah non, mais c'est parce que Dave, tu me connais, vous connaissez tous mon charme exemplaire, tu sais. J'ai laissé une...
l'exemple, mais le charme, lui...
Hey, mon cher!
JP, c'est un exemplaire, c'est juste ça.
Ah, c'est une chance qu'il est un exemplaire unique.
Ouais, je pourrais dire la même chose de toi, mon cher. Mais c'est vrai que
absolument.
Mais c'est vrai que tu t'es reproduit, fait que...
Ah, moi, mais. Oh. C'est pas un. Ça aussi, c'est un exemplaire unique.
Ouais, c'est un remix.
Ouais.
Mais bon, fait que, ben, après la crème à glace, ça, tu me disais que vous avez fait quelque chose. Ben, on a été voir le Freakapolis Geekery le lendemain. Bon, c'était pas. C'était un petit peu plus petit que je pensais, mais c'était quand même sympathique. J'ai été récupérer ma Deep Space Nine pour Star Trek Attack Wing. Et tu disais que.
On est encore une fois une belle petite ville américaine typique puisque ça nous a tenté de prendre une petite.
Ouais, ben nous autres, on n'a pas tant trippé sur la boutique en tant que telle. Là. C'était
parce
plus
qu'on en
le.
A une autre comme ça.
Ouais. C'était plus le petit jardin en avant. Mm-hmm. En hommage aux vétérans de la guerre, encore une fois.
Ça sentait bon l'air pur, on va dire.
Il y avait un beau grand château. Ben, pas un château, mais une grande maison, un manoir. En haut de la colline, oui. C'était assez...
Ouais, ben moi je l'appelle la maison de la famille Adams. Elle est comme un peu gothique, un peu lugubre, mais elle a un beau charme, cette maison-là, je l'ai pris en photo. Je sais pas qui habite là, mais...
Je pense que c'est un ancien juge, de manière que j'avais compris. Il y avait même des dîners et des séances de thé qui se donnaient dans la...
C'est-à-dire
ouais.
Des séances de spiritisme.
Ouais, c'est ça.
Aussi.
On n'est pas au 19e siècle.
Ah, ben, j'avais quand même amené un picky meter, puis il semblait frémir dans cette direction-là. Mais bon.
Ben, c'est ça, mais qu'est-ce que vous avez fait après notre départ, là?
Nous, on est allé visiter le fort de Ticonderoga.
Oui.
Fort que j'ai beaucoup aimé parce que, premièrement, c'était bilingue. Il y avait des explications autant en français qu'en anglais.
Ouais. On a aussi assisté à une présentation de tir de canon, ce qui était particulièrement cool. On a vu beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup d'histoires, puis ça nous rappelait ce qu'on avait lu dans nos petits livres d'histoire quand on était jeunes.
Ben c'est ça, la présence française avec Montcalm qui s'était battu là, même le duc de Lévis. C'était rendu là pour
et l'ingénieur de Lobinière.
Oui, monsieur de Lobinière. D'ailleurs, la région de Lobinière qui porte son nom à son honneur. Mm-hmm. C'est lui qui a fait, qui a conçu les plans de ce fort-là. Mais c'est toutes des choses, moi, que j'avais déjà appris, je pense, quand j'étais en quatrième année, cinquième année.
Ouais,
les images qu'il y avait à l'exposition à l'intérieur du fort, c'était des images que j'avais déjà vues dans mon livre d'histoire.
Ah.
Je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est un fort très important.
Ouais, parce qu'on y voyait là tout sur la Nouvelle-France qui descendait dans les États-Unis et la fois où les États-Unis se sont rendus au Québec et conquérir Montréal et presque et c'est rendu jusqu'à Québec d'ailleurs où ils se sont plantés devant nos fortifications. Mais c'était quand même assez drôle de voir toute cette histoire-là. L'histoire de Laura Socor d'ailleurs qui en rapport avec ça.
Qui fait pas de chocolat.
Non, c'était pas du chocolat. Et le oh mon Dieu, il y avait énormément de fusils de cette époque-là. Ça nous a tellement inspiré qu'en revenant ici, on a écouté Le Patriote avec Mel Gibson.
Oh! Okay.
Ben, okay. Ouais, ben c'est un film qui se passe un peu, pas tout à fait à la même époque, mais presque.
Ouais.
Ça rappelait un peu cette époque-là. Puis d'ailleurs, au début du film, il y a quelqu'un à un moment donné dans la foule qui disait hey, « Je me suis battu à telle place. »
T'es à deux pas de là.
On se dit, oh, c'était peut-être à Ticonderoga. Mm. Donc, beau fort historique qui fait état de la présence française
et qui fait surtout,
canadienne même aux États-Unis.
Qui complète bien aussi une visite dans ce secteur-là parce que, honnêtement, ça rajoute du charme puis aussi ça permet, comment dire. C'est tellement gros, on n'en a rien vu de partie d'ailleurs. On a pratiquement dépensé notre argent dans le vide à être là-bas.
Parce que normalement, tu prends deux jours pour visiter ça, tu vas voir les jardins du roi là, à côté. Je sais pas okay. Si vous autres aviez eu le temps de les visiter.
Je pense pas, non.
Parce que ça a l'air magnifique. Là. J'ai vu les photos, mais écoute, c'est quasiment une journée.
Ben, jardin du roi. Le jardin du roi me semble que c'est à côté du labyrinthe. J'ai
ouais, c'est ça, mais ça, on avait fait le labyrinthe, mais on avait fait le fort. On n'avait pas été voir les jardins, il me semble.
T'as la traversée aussi. Tu peux prendre un traversier à 4 heures de l'après-midi qui t'amène au Mount Defiance.
Oh!
Puis tu y vas, puis il y a un guide là-bas là, qui t'amène visiter la montagne, les lieux historiques. Mais tu sais, encore là, tu sais, c'est pas pour rien que quand tu vas là, ton billet il est bon pour deux jours. C'est parce qu'ils s'attendent à ce que tu reviennes le lendemain parce que tu peux pas tout faire ça. Mm-hmm. Nous, on est revenu au Québec cette journée-là, donc on a juste eu le temps de faire le fort. Mais c'est parce qu'on voulait se dépêcher d'aller magasiner au Target à Plattsburgh. Puis on pensait que le Target fermait à 5 heures, mais non, le Target fermait à 10 heures.
Ben oui,
on s'est dépêché pour rien, on aurait peut-être eu le temps de le visiter.
Ouais. En même temps, on aurait été brûlés, je pense.
Ouais, mais bon.
Au Target, on a encore acheté quelques petits trucs qu'on avait de la misère à trouver au Canada. Mm-hmm. Et... Bon, les céréales au chocolat.
Crystal Flake au chocolat.
Des céréales pleines de sucre américain qui donnent des caries.
Ah. Oh, ben illégal en territoire canadien.
Ben pas illégal, là, mais tu sais, bizarre pour les enfants ici. La
teneur en sucre est un petit peu trop élevée.
Là. Ben c'est la société canadienne alimentaire là, qui veut pas que les enfants mangent trop de sucre. Ouais, fait que j'ai aussi acheté... J'ai aussi acheté des bouteilles de jus à Stella avec des têtes de personnages de Disney. Oh, c'est des petits jus de pommes, là, mais tu sais, quand tu regardes ça, il y a plus de sucre que de jus dans la bouteille.
C'est du sirop.
Ben oui, là, Stella était déçue parce qu'elle a fini sa bouteille. Elle a dit, papa, j'en voudrais encore. Ben, il faut aller aux États-Unis pour ça, ma chouette, parce qu'ils n'en vendent pas ici des jus.
On va te remettre du jus ordinaire dedans.
Ouais, ben j'ai gardé les bouteilles, là, sont très cute. Là.
Bon.
Mais tu sais.
Elle va être populaire à garderie.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Sinon, à notre retour, on traverse la frontière. Évidemment, là, je tombe sur quelqu'un qui parle en français parce qu'évidemment, on rentre au Canada. Mm-hmm. Fait qu'il nous demande d'où c'est qu'on vient. On dit de Ticonderoga. Il nous demande qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas. Je dis, ben, le Star Trek Original Series 7 Tour. Puis il me regarde, ah ouais? Puis là, je commence à y parler de la place. Puis genre, je monte mon t-shirt, je dis, oh mon Dieu, c'était génial, etc. Ah ouais? Fait que j'ose de ça pendant un bon 2-3 minutes. Je finis par me donner mon passeport en disant, c'est bon, tu peux y aller. Puis là, en malage, on se rend compte que Chris, il nous a pas posé de questions.
Il a vu ton gilet, il a dit, ils sont fuckés, je parle plus.
Non, le gars, il était fan, là. Il était vraiment trop fan, puis il était là, oh, moi, je vais aller voir ça sur Internet, merci.
Ben, ils ont pas fait la même chose, JP, et nous autres, quand on est rentrés aux États-Unis, puis on lui a dit où est-ce qu'on allait, il a fait, oh, ouais.
Ouais, il y a toujours une couple de réactions étranges quand on mentionne Star Trek à des douaniers, là. J'ai hâte de voir ça à l'aéroport.
Beaucoup de douaniers qui sont fans de Star Trek, faut
bien craindre.
Donc, ça va avec la job.
Mais du sais, je me répétais, comme j'avais dit, le fait d'avoir les auteurs pour aller à cette journée-là, en plus de rien que faire le tour, il faisait toutes des panels qui étaient très, très intéressants. Il y en avait beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à raconter. Il y en avait même un qui avait participé au Star Trek Adventure.
Oui. Robert. Un des deux. Je pense que c'est Robert Greenberger.
Puis c'est ça, c'était très intéressant. Il était très intéressant à entendre mon avis par rapport au jeu. C'est ça, non? C'est cool. Sinon, évidemment, ils avaient toutes des histoires avec des vedettes, des histoires, des points de vue qu'on n'entend pas souvent. T'sais, souvent, on entend soit du sensationnel, soit de l'adulation. Non, eux autres, ils nous racontaient des choses du vécu bien ordinaire.
Ben, c'est comme Peter David qui racontait que lui, quand il avait 14 ans, il avait interviewé pour son projet au secondaire, il avait interviewé...
William Shatner.
Ouais, c'est ça, il avait été oublié William Shatner pour son projet au secondaire. Puis, tu sais, il nous a dit, tu sais, on entend beaucoup de choses sur William Shatner, que des fois, il peut être bête, peut être arrogant, tu sais, qui est pratiquement déjà envoyé chier des gens parce qu'il n'était pas de bonne humeur, etc. Mais je peux vous dire, il dit que moi, le petit garçon de 14-15 ans que j'étais, qui dit avec moi, j'ai dit, il a été tellement gentil, là. Il dit, il n'a jamais été arrogant ou déplaisant. T'sais, pourtant, j'étais un petit cul du secondaire qui m'a fait une entrevue. Mm. Il dit, Gade, il a toujours été correct avec moi. Il dit, Gade, il dit. Moi, en tout cas, il dit, la seule relation que j'ai eue avec lui, c'était ça. Puis, j'en garde un excellent souvenir.
Il n'y avait pas aussi écrit la biographie de James Doohan, me semble.
Oui, je pense que c'est lui qui avait fait ça.
Ah, mon Dieu, ça, là, de la façon qu'il racontait ça, parce que James Doohan, ça ne tentait pas tellement de que quelqu'un d'autre écrive son histoire à part lui. Tu sais, il y avait une grosse tension là, quand il est arrivé, puis il savait qu'il fallait que dès la première question, il l'aille dans sa poche, ou en tout cas, bref, que ça se passe bien. Puis il a posé la question, c'était quoi ton sentiment quand tu as vu une télévision pour la première fois? Oh. Parce que pour James Doohan, la télévision a énormément d'importance. James Doohan a fait la Deuxième Guerre. Là,
ouais, il a été au débarquement de Normandie. Là.
Il a vu la télévision à sa création pure. Là. Mm-hmm. Nous autres, on a vu les ordinateurs. Bon, moi, j'ai vu l'ordinateur depuis sa presque naissance.
Ouais.
L'ordinateur de maison. J'ai vu les premiers ordinateurs, puis je peux précisément dire comment je me sentais la première fois que j'ai vu un ordinateur, la première fois que j'ai vu un cellulaire. Tu sais. Avec mes yeux, je m'en souviens. Justement, lui, il partait de ce principe-là. Eux autres, ils ont vu ces affaires-là. Fait qu'il s'est dit, lui, il a vu ça, puis vu que la télévision a été très importante dans sa vie, il a posé cette question-là. Puis là, justement, James Doohan s'est vidé le cœur, puis il était très heureux. Puis ça, justement, apparemment, ça lui a permis de passer un très, très bon, très, très bon moment. Il posait quelques questions, il enregistrait, puis non, vraiment, tous ces auteurs-là avaient toutes des histoires vraiment intéressantes de ce style-là, avec des anecdotes vraiment cool, qui nous donnaient aussi une idée de comment c'est être un auteur. Puis ils avaient tous des cheminements différents. Il y en avait que le cheminement était très professionnel, que dès le début, ils ont eu de la chance, puis que gens sont partis dans la chose. Il y en a d'autres qui ont trimé dur pour avoir une première fois, puis après ça, il était tout le temps à chercher à faire des projets. Il était toujours sur la ligne. Puis c'est des gens tellement humbles, tellement ordinaires. Ils ont conduit pour se rendre là, en auto. Là. J'y regardais, je me disais, Colin, j'ai l'impression que vous êtes vous agissez comme des cosplayers de petites conventions à sans but lucratif là, pour faire ça. Mm-hmm. Ils ont fait ça eux-mêmes. Puis tout ce qu'ils voulaient, eux autres, c'était passer un peu de temps ensemble entre amis.
Mm-hmm. Puis ça, ils n'étaient pas payés pour être là.
Ils vont par passion.
Passionné. Là. Mm-hmm. C'était vraiment impressionnant. Puis ça mérite le respect.
Et sur ces sages paroles, mon cher Pierre, on va passer en musique avec un grand classique, Star Trekkin, le groupe The Firm. Et, on va passer aux nouvelles parce qu'il s'est passé, pas mal de choses pendant les deux, trois dernières semaines. On va essayer de rattraper le temps perdu. Donc, on se reparle de l'autre côté de la pause. Vous écoutez Parlons Trek avec Marc et Patricia. Et
Pierre,
excuse-moi.
Accessoirement.
Tu peux
appeler Jean-Charles aussi.
Mais non, mais c'est parce que Pierre, tu parles tout le temps, fait que tu parles tellement que, hey, mon Dieu, je suis en train de m'enfoncer mon pied dans la gorge.
Là. Oui, c'est ça, là, je veux dire, là, tu parles avec tes deux pieds dans la bouche. Là.
Sur ça, je vais partir de la musique et on se reparle de l'autre côté de la pause.
Across the universe
on the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star Trekking across the universe,
slowly going forward cause we can't find reverse.
Lieutenant, report.
There's Klingons on the starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, Jim.
And there's this
life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. It's Captain.
There's Klingons on the starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, Jim.
Star Trekking across the universe.
On the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star Trekking across the universe.
Slowly going forward, still can't find reverse.
It's worse than that, he's dead, Jim. It's worse than that, he's dead, Jim.
It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it.
Captain. There's Klingons on the starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, Jim.
Starship Captain James T. Kirk.
Ah, we come in peace, shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace, shoot to kill, man.
It's worse than that, he's dead, Jim. It's worse than that, he's dead, Jim.
Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain.
There's Klingons on the starboard bow. There's Klingons on the starboard bow. Scrape them off, Jim.
Star Trekking across the universe.
On the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star Trekking across the universe.
Laws of physics.
Can it change the laws of physics?
Laws of physics,
Jim. Oh, we come in peace, shoot to kill. We come in peace, shoot to kill. Scotty, beam me up.
It's worse than that. He's dead, Jim. It's worse than that. He's dead, Jim.
Well, it's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain.
There's Klingons on the starboard bow.
You cannot change the script, Jim. Oxygen, Jimmy.
It's worse than that. It's physics, Jim.
Bridge to engine room, warp factor 9.
Oh, if I give it any more, she'll blow up.
Et vous écoutiez Star Trekking par le groupe The Firm. Et c'est une des rares tunes geek qu'on peut trouver dans à peu près n'importe quel karaoké, en tout cas au Québec. À l'époque, ce que je faisais, oui, j'ai une époque karaoké. On peut retrouver cette chanson-là dans la plupart des catalogues karaoké. En tout cas, au Québec, là, j'ai été assez impressionné. Fait que ça a souvent été ma toune par défaut quand j'allais en faire. Écoute.
J'avais un dernier.
Hein, Pierre avait encore des choses à dire.
Ben voyons.
Patricia a dû nous quitter. Cependant, Pierre a encore à se.
Oui. Fait que donc, le lendemain de notre retour en terre canadienne, on a décidé d'aller faire un tour à Montréal. Puis, on était voir notre ami Seb Minot qui nous a montré le Hangar 51. L'endroit où est-ce que tu as déjà été, JP? Toi aussi, Marc?
Oui. Moi, j'y étais simplement pour faire le labyrinthe il y a quelques années.
Non, c'est pas la même place. Ça,
c'est, ben, c'était au Hangar 51.
Non, c'est pas là. C'est pas le Hangar 51, mon cher. C'est un autre hangar. Vraiment dans le vieux port, là. C'est,
ouais. Okay. Là. C'est peut-être un autre numéro mais, où ils ont déménagé, mais je suis sûr que c'était 51.
C'était pas.
Ben, non, je te crois, là.
Mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose.
Non, c'est ça, c'est sûr que c'est pas la même chose.
Alors donc, le Hangar 51, pour ceux qui ont raté l'épisode où JP en a parlé un petit peu. Alors, c'est des pods, ou si vous préférez, dans le fond, des cabines. Des capsules, oui, des cabines. Capsule Corporation. Bon, j'arrête avec mon Dragon Ball. Donc, où est-ce qu'on, évidemment, on pénètre, on s'assit. Il y a des joysticks, des manettes, des boutons, des paquets d'écrans et, dans le fond, c'est un jeu vidéo de MechWarrior. Pour l'instant, c'est MechWarrior. Il y a d'autres jeux vidéo qui vont venir. Mais, principalement, c'est un jeu de où est-ce qu'on est des gros robots puis qu'on se tire dessus, soit entre nous en équipe, ou contre des bots. Nous autres, principalement contre des bots, parce que on a eu un tour complètement du propriétaire parce qu'il n'y avait pratiquement rien que nous autres en place. Et vraiment, c'est peut-être une vieille technologie. D'ailleurs, il n'y en a que trois de ces lieux avec ces équipements-là en Amérique du Nord. Et je ne suis même pas sûr qu'il y en a ailleurs dans le monde. C'est à l'origine, ça venait d'un endroit qui s'appelait Monde Virtuel, où est-ce qu'il y avait des jeux vraiment, vraiment fantastiques. Moi, dans le temps, j'avais joué, en plus de MechWarrior, j'avais joué à un jeu de course qui était vraiment génial. Donc, c'était pas, ça faisait 20 ans que j'avais pas mis les pieds dans une de ces capsules-là, et je me souviens que j'avais vraiment trippé comme un fou. Bref. Encore une fois, j'ai trippé comme un complètement mongol, mais ce qui est important, c'est quand on voit là, au Hangar 51 à Montréal, c'est qu'il y a une atmosphère. Quand on rentre là, on est dans un endroit rétro-futuriste où est-ce qu'on utilise la vieille technologie, mais vraiment à un niveau vraiment débile. Là. Moi qui est techno, je me sentais carrément chez moi. Là. Il y a de la vieille technologie partout, des vieux circuits imprimés qui servent de décoration, des tuyaux, des trucs de même. C'est mongol, j'adore ça. Même leurs drinks ont des noms de d'explosifs et d'histoires de même. Là. avec consonance du jeu vidéo. D'ailleurs, il y a une belle collection de consoles de plusieurs âges, à commencer par un GameCube avec Rogue Squadron. Ah, j'étais tellement un héros à ce jeu-là. Mais bon, c'est un bel endroit pour boire un bon verre en bon ami. Et évidemment, il y a les combats de pod qui sont géniaux parce que, c'est, dans le fond, un jeu vidéo en ligne, mais il n'y a aucun moyen de jouer à ça de cette façon-là ailleurs, au Canada. Et seulement, comme j'ai dit, deux autres places aux États-Unis qui sont quand même assez loin, là. Donc, j'aimerais mentionner aussi que les vendredis soirs, il y a Luduc, l'animateur YouTuber, qui anime les soirées. Fait que donc, c'est vraiment, c'est encore plus cool parce qu'il est super sympathique, il est bien fin, puis c'est toujours le fun de le voir puis de jaser un peu avec. Mais il est aussi... bref, on s'amuse beaucoup dans cet endroit-là. Moi, j'étais complètement époustouflé par la technique, par tout, par absolument tout, l'accueil. On a vraiment l'impression d'être des militaires en mission parce qu'on a une mission, puis après ça, on regarde notre mission en débriefing. c'est vraiment intense. Là. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé. Et si ça intéresse le monde, allez sur Facebook, cherchez Hangar 51 MTL pour Montréal. Vous allez facilement trouver. En ce moment, ce n'est ouvert que 3 jours semaine. Donc, les jeudis, vendredis, samedi soir. C'est possible quand même de réserver pour des événements spéciaux si vous voulez y aller 2 jours de la semaine. C'est principalement ces 3 jours-là. C'est au 5777 boulevard Saint-Laurent.
C'est dans le coin du building d'Ubisoft pour ceux qui.
Oui, c'est aussi à 2 pas du stade Uniprix. C'est pas si compliqué que ça de se rendre là. Si vous allez à la station de métro, je pense que c'est Rosemont, c'est ça?
Ouais, ça, mais il faut prendre quand même un autobus pour se rendre là-bas. Là.
Non, c'est faisable à pied. C'est trotte, mais c'est faisable.
On passe en Montréalais moyen, c'est quand même loin. Là.
Ben, c'est l'équivalent de 3 coins de rue. Là. C'est pas si pire que ça, là, je veux dire. Là. C'est juste qu'il faut passer sur un viaduc. Des fois, ça fait peur, mais c'est parce qu'en tant que tel, il y a un bel endroit piéton, puis c'est très bien fait. Je l'ai vu moi-même. Fait que je l'ai fait bien pire que ça du temps que je vivais à Montréal. Fait que je ne fais plus que recommander. Et si vous êtes vraiment si jamais vous passez par là, vous regardez à l'extérieur, il y a un beau présentoir avec des choses et vous pouvez prendre une carte qui vont vous donner droit à une mission gratuite. Fait que donc, profitez-en.
Et quand vous allez voir Sébastien Minot, n'oubliez pas de lui dire que Star Trek est bien meilleur que Star Wars.
Dites-lui bien que vous avez entendu ça de par l'autre rec.
Oui, surtout parce que Sébastien est quand même un grand gourou de Star Wars au Québec.
Oui.
C'est un des leaders de la communauté locale. Donc,
de la forteresse impériale.
Un des rares que je peux dire qu'on connaît plus sur Star Wars que moi.
Mm-hmm. Ben, il y a quand même des plugs chez Disney, là, fait que faut pas liaiser avec lui. Là.
Non, c'est ça. Là. Moi, j'ai pas ça, mais bon.
Mais toi, t'as la force?
Non, moi, je sais combien il y a de canons sur un Imperial Class Star Destroyer. Par cœur. Je sais la différence de nombre de canons aussi sur un Imperial Class 1 et Class 2. À quoi ça sert? Ça a servi à me faire rater mon secondaire, mais c'est pas grave.
Ouais, c'est comme moi et les jokes de Pérus quand j'étais jeune.
Ça m'a fait rater mon primaire, ça.
Ah, OK. Ça montre ton âge.
Ah bon, moi je suis le vénérable du sommet.
Mm-hmm. Donc, merci pour ta grande gueule, comme d'habitude.
Ah, ça me fait plaisir de me permettre de te mettre tes deux pieds dans la bouche alors que tu portes des bottes Sorel, mon cher JP.
Ah, c'est bon, là tu le plug, t'as plus la
place. Oui, j'ai réussi à plugger ma Dijon, je suis fier. Puis je vais fermer la gueule.
Bon! Parce que on a à peu près 3 semaines de nouvelles à rattraper, donc puis ça fait déjà pas mal 1 heure qu'on parle, fait qu'on va essayer de faire ça en vitesse un petit peu accélérée. Premièrement, pour ceux qui ont trop d'argent qui leur brûle dans les poches, Anovos a un nouveau costume qui est en prévente sur son site web. On parle d'espèce de jacket en Suède que Kirk portait dans Star Trek V. Et qu'on a vu aussi, on a aussi vu Scotty le porter aussi. Donc, l'espèce de jacket en Suède avec des boutons à snap un peu casual, là. Donc, honnêtement, ça a une petite classe années 80, je trouve.
Oui, mais JP, tu sais qu'à Novos, c'est toujours avec précaution qu'il faut commander là.
Ah, mais il ne faut pas précommander à Novos. Mais si tu veux commander une fois que c'est releasé,
ouais.
ou bien la question est si ça te tente d'attendre, si tu es prêt à attendre, pas de problème.
Des années?
Il y en a que ça a été des années, il y en a que ça a été moins pire.
Le Proton Pack, là, ça fait maintenant 3 ans que le monde l'attend.
Ah ouais, mais on s'entend qu'un Proton Pack, c'est quelque chose d'autre qu'un jacket. Là.
Les uniformes de Star Trek, il y en a qui valaient beaucoup plus cher que le Proton Pack.
Ouais, je sais, mais on s'entend qu'entre des trucs qui demandent du moulage, puis de l'impression 3D, puis la manufacture versus des trucs qui nécessitent de la couture, c'est deux. Mais généralement, leurs uniformes, ils finissent par arriver. Mais c'est toujours impeccables. Juste une question de, c'est toujours une question de temps. Donc, c'est ça. Donc, pour conclure, comme pour ceux. On va continuer dans la catégorie pour ceux qui ont l'argent qui brûle dans leur poche et qui aiment le bourbon. On a un bourbon James T. Kirk Straight Bourbon Whiskey de la compagnie Silver Screen. Deux secondes, c'est Silver Screen Bottling qui va lancer son whisky Star Trek au San Diego Comic-Con. Et j'ai eu une confirmation de leur part qu'ils vont aussi être à Star Trek Las Vegas. Donc, on risque d'en s'en prendre une bouteille chacun.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé par William Shatner? Goûté par William Shatner?
Écoute, il y a le nom James T. Kirk. Il n'y a pas le nom William Shatner. Fait que techniquement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, tant qu'ils ont une licence de CBS.
De toute façon, selon moi, c'est la sueur de Kirk.
On parle ici, on dit que Michael Okuda et Doug Drexler ont contribué au design de la bouteille.
Ouais.
Et que le... Is selected... Et on parle des barils âgés de 4 à 12 ans. Donc, chaque sortie de ce whisky montre une profondeur, une richesse telle que vue dans les meilleurs exemplaires de Bourbon, avec des notes de caramel, des 5 épices asiatiques et de la pécane, de la pacane. Créé dans le plus grand respect de tradition disons, du whisky. Mais tant qu'à moi, ça aurait dû être un Bones McCoy whisky plus que James T. Kirk, parce que on s'entend que McCoy, c'était plus un homme du Sud. Je pense que le Bourbon aurait mieux fait. Mais écoute, il y a encore l'espoir d'avoir une bouteille Leonard McCoy un moment donné pour usage strictement médical. Pourquoi pas? Une triste nouvelle, l'auteur, le légendaire Harlan Ellison est décédé la semaine dernière. Il est mort à l'âge de 84 ans, il est né en 1934. Il est principalement connu dans Star Trek pour avoir écrit l'épisode « The City on the Edge of Forever ». Il est aussi connu pour son tempérament colérique et pas nécessairement colérique, mais sa tendance à vouloir actionner tout ce qui bouge dès que ça concerne ses œuvres. Il est très, très protectif de ses œuvres. Dans tout ce qui est, justement, tout ce qui était par rapport au Garden of Forever, il y avait un droit là-dessus. C'est pour ça que on n'est jamais vraiment revenu. C'est parce que je pense qu'il faisait tellement peur à Paramount CBS qu'ils n'ont jamais osé remettre la main dessus. Outre cela, si vous voulez faire une expérience de jeu vidéo intéressante, il y a un jeu qui était basé sur une de ces nouvelles qui s'appelle I Have No Mouth and I Must Scream, qui raconte l'histoire de 5 survivants d'un holocauste causé par un ordinateur devenu fou qui torture ces cinq survivants-là. C'est très spécial, je peux pas vraiment en dire plus. Il y a aussi la version intégrale de City on the Edge of Forever, donc la version non modifiée, principalement parce que Gene Roddenberry avait retravaillé le script de Harlan Ellison au grand dam de ce dernier, ce qui a mené à une version qui était grandement modifiée de ce qui avait été écrit à l'origine. En 2012, on a eu droit grâce à IDW, donc à la version non censurée et non réduite de l'histoire. Si je me rappelle bien, Harlan Ellison, était président d'une association d'auteurs. C'est lui qui avant ce malheureux incident, il avait poussé beaucoup d'auteurs à écrire pour Star Trek. Donc, il a quand même fait beaucoup pour Star Trek en général, pour le domaine de la littérature, parce qu'il ne se disait pas auteur de science-fiction, c'était un auteur de genre. Il n'aimait pas l'étiquette. Donc, je vous invite. Il y avait un documentaire qui avait... j'essaie de retrouver le nom. Il y avait un documentaire à son... donc, Dreams with Sharp Teeth. J'avais vu sur Netflix, je pense qu'il n'est plus là depuis, mais si vous pouvez voir, ça va vous donner une bonne idée de l'homme. On parle du genre de personne qui, même jusqu'à aujourd'hui, continue à écrire sur une machine à écrire juste parce qu'il pouvait. C'est ce genre de personnage-là. Donc, une grande perte pour le domaine de la science-fiction. Outre cela, dans les nouvelles un petit peu plus joyeuses, donc la dernière fois, j'avais mentionné que Robin Curtis allait nous rejoindre à Ticonderoga. Elle allait rejoindre M. Carl Urban, Judge Dredd lui-même. Et aujourd'hui, on apprend que Michael et Denise Okuda seront de retour.
Sérieux? Oui.
Ils vont être de retour pour Ticonderoga, donc du 24 au 26 août 2018.
Elle peut mettre du poids pour que Patou Pumon y retourne.
Ouais, c'est ça, hein?
Ouais, on a réussi à concocter un plan de nègre, là, qu'on pourrait peut-être y aller, mais vraiment faire une apparition éclair, puis pas coucher là-bas, là. Parce que c'est quand même bien qu'à 1h30 des lignes.
C'est ouais. Pas loin.
Ce qui veut dire... puis les lignes sont à peu près à 1h de chez ma mère, donc 2h30. Ce qui est à peu près la distance Québec chez mes parents, ce qui veut dire, bon, c'est faisable.
Mais donc ça, et ceux qui veulent vraiment, il y a un billet spécial, un lunch avec Robin Curtis qui se vend à part du billet pour Ticonderoga qui se vend 100$ américains, où ce qu'on peut, on va passer 75 minutes autour d'une table avec 10 autres avec 9 autres personnes, ça pour 10 personnes totales.
Chez McDonald's.
Non, un lunch. Un lunch qui va être avec le traiteur du Hot Biscuit. Donc un petit dîner quand même relativement intime avec Robin Curtis. Je trouve que pour dîner, 100$, parce que
j'ai déjeuné au Hot Biscuit, j'en étais pas impressionné, mais un dîner serait probablement meilleur.
Ouais, c'est ça. Donc ça va être sur les prémices de la convention, ce sera pas au Hot Biscuit, mais la bouffe va être fournie par le Hot Biscuit. Donc, pour les nouvelles de Ticonderoga, c'est pas mal ça. Sinon, ben, il y a évidemment... Oui?
C'est des bonnes nouvelles.
Ah, c'est des bonnes nouvelles, en effet. Parlant de bonnes nouvelles, bon, il y a une explosion de nouvelles qui s'est passée par rapport à notre ami Alex Kurtzman, donc le producteur exécutif en charge de Discovery. Donc, on a appris qu'il avait re-signé pour 5 ans pour une nouvelle mission de 5 ans pour développer plus de Star Trek pour CBS. Donc, on parle possible de quelques projets on s'entend, c'est rien confirmé. Il y a OK. Mais on se rappelle qu'il y a une couple de mois, il y avait Nicholas Meyer qui avait mentionné qu'il y avait une espèce de projet, une mini-série qui était comme en attente à cause de la chicane entre Viacom et CBS. Cependant, on dirait que maintenant que ça a été repoussé, cette menace-là a été repoussée, parce que temporairement, pour l'instant, les projets ont peut-être ont profité pour se développer, ou du moins pour faire des semblants d'annonces timides. Donc, on parle peut-être soit d'une série qui serait la fameuse série Starfleet Academy, qui serait de la part des créateurs Stephanie Savage et Josh Schwartz, duo qui a fait le reboot de Dynasty sur CW et qui a aussi créé des Gossip Girl et Runaways de Hulu. Marvel's Runaways sur Hulu. On parlerait
du moins où il y a malheureusement aucune de ces séries-là qui ont été très bonnes.
Gossip Girl, ça a très bien pogné chez les jeunes filles.
Ouais. Marvel's Runaways, ça vient de commencer. J'ai pas vu de review par rapport à ça.
Moi non plus.
OK, c'est la nouvelle affaire. Moi, je pensais que c'était à l'autre d'avant.
Non, tu parles de. Toi, tu penses à WoW et Inhumans. Non, c'est pas.
Ah, ouais, c'est sûr, ça s'appelait Inhumans. Je me suis mélangé.
Ouais, c'était pas ça. Mauvais, Inhumans. Mais...
Puis, ben, Dynasty, ben.
Ils ont perdu Pike, de toute façon.
Mais, ouais, Dynasty, on s'en fout. Mais, bon, ok. Ben, c'est parce que c'est ça, on, ça a l'air vraiment un projet vraiment intéressant. D'ailleurs, t'as-tu lu la BD de Star Trek Academy que je t'avais.
Non, pas encore. J'avais vu. J'étais au courant que de son existence, là. Mais je vais regarder ça avec grand intérêt.
Je trouve ça vraiment cool qu'on voit Quark. Mm. Dedans. Fait que non, ça serait vraiment nice.
C'est pas Quark, c'est pas Nog.
Quark. Nog, ouais, Nog, excuse-moi, je me suis mélangé. Mais bref, ben on voit Quark aussi, mais pas là, vraiment pas longtemps. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment cool qu'on voit justement Nog. Puis ça serait vraiment nice, justement, que Star Trek Academy, on voit justement beaucoup de non-humains. Ça, là, c'est quelque chose qui exploite jamais assez, là, les non-humains, là, dans, ouais. dans les choses. Puis la technologie à cette heure est capable de permettre ça, là, facile. Ouais,
ils vont le faire. Hein.
T'sais, je veux dire, il n'y a rien qu'à voir que c'est à quel point qu'il y en a, justement, dans le disco, là, comment il y a des non-humains. Encore là, ils ne sont pas si importants que ça. Ouais, c'est ça, ils ne sont pas super bien utilisés, ils ne sont pas assez constants. Puis, en tout cas.
De toute façon, on pourra en reparler longtemps. Sinon, on parle d'une autre série limitée, peut-être plus mini-série, on n'a aucun détail à ce sujet-là. On parle du fameux projet, justement, de Nicholas Meyer. Bon, on parle de basé autour de Wrath of Khan, mais ça, comme j'avais dit précédemment, c'est juste parce que c'est une équation facile à faire de dire, bon, une mini-série plus Nicholas Meyer égale Wrath of Khan ou relié à Khan. Je pense que c'est juste quelque chose de... un raccourci intellectuel. Je ne mettrais pas un 20$ sur Khan. Sinon, on parle aussi d'une possibilité d'une série animée. Parce que ceux qui ne savaient pas, en 2009, quand ils commençaient à développer pour le reboot de Star Trek de Paramount, il y avait eu des discussions par rapport justement à faire une série animée dans le Kelvinverse, des trucs de même, parce que c'est un peu ce que parce que l'équipe de production qui travaille sur Star Trek 2009, c'est un peu la même qui avait travaillé sur Transformers, le reboot, et je crois qu'Alex Kurtzman était impliqué dans le dessin animé de Transformers qui était basé sur, ou du moins dérivé du film, là. Faudrait que je revoie. Mais en tout cas, je me trompe parce que ça, c'était mon homme amené. C'est dur de se rappeler c'est qui a travaillé là, sur quoi. Ah non, il n'a pas travaillé sur Transformers. Transformers Prime, oui, c'est ça. Donc, il a été consultant exécutif sur Transformers Prime, qui a duré quand même trois saisons quand même. On parle de quelqu'un qui a quand même un petit peu d'expérience en termes de séries animées, quand même. Donc, c'est quand même bien. Il y a des rumeurs qui diraient que Patrick Stewart serait peut-être prêt à re-signer pour du Star Trek.
Ça serait nice.
Mais encore là, c'est des rumeurs qui sont colportées par le journal The Mirror, qui est un peu un tabloïd.
Ça n'a pas été confirmé?
Non, c'est rien de confirmé. Ça a été rapporté.
Ça a été confirmé, par exemple, pour comment que s'appelle le réalisateur de films.
Tarantino. Vraiment.
Ouais, Tarantino qui est intéressé.
Il n'y a pas rien de signé officiel 100% dans le béton encore.
Mais
même le quatrième film avec S.J. Clarkson, c'est comme. C'est dur à
ça
dire.
Ce sera pas Abrams?
Non, c'est pas. Abrams a réalisé le premier, le deuxième. Le troisième, c'était celui qui a fait Rapide et dangereux. Et le quatrième, ce serait une femme, je crois, je m'appelle S.J. Clarkson. C'est cela.
Ouais. Fait que celui-là, il n'est pas signé non plus. Puis le film de.
Présentement,
le
film de Tarantino, il y a rien de signé. La seule chose qui est signée au ciel, c'est qu'il y a Kurtzman qui a re-signé pour 5 ans avec CBS, avec sa maison de production. Pour développer plus de Star Trek. C'est la seule chose qu'on peut dire canoniquement qui est officielle, vraie. Tout ce que j'ai dit par après, c'est des rumeurs. Il faut le traiter en tant que tel.
Mm-hmm.
Mais pour en revenir à quelque chose qui est plus pas dire canonique. Il y a ben, justement une... Bon, on avait parlé des deux producteurs qui avaient été sortis de Discovery. Ben justement, deux de sortie, trois de rentrée. Donc, en fait, il y a eu quelques nouveaux arrivages et quelques promotions au sein de l'équipe de Star Trek Discovery. Premièrement, on parle du créateur James Duff, qui est principalement qui est connu pour avoir la série The Closer, donc qui va rejoindre l'équipe en tant que producteur exécutif. C'est quelqu'un qui est connu pour être compétent, qui sait bien gérer un budget. Je pense que c'est peut-être le genre de producteur que Star Trek Discovery avait besoin, parce que les rumeurs disaient qu'il y avait des problèmes de budget avec la deuxième saison. Ben, c'est prône avec toute n'importe quelle série de science-fiction. Donc, lui va peut-être être capable de mieux jouer avec les chiffres. Et de plus, James Duff avait écrit un épisode de Stark Enterprise. C'était Fight or Flight. Ah non, c'était pas ça. C'était... deux secondes. Enterprise, c'était... J'essaie de voir c'était quoi l'épisode qu'il avait écrit. Il avait écrit Fortunate Son. Donc, c'est un épisode où la famille du pilote était prise entre les pirates nausicaines. Donc, c'était quand même un très bon épisode. Il avait aussi apparu dans le documentaire For the Love of Spock. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est quand même quelqu'un qu'on connaît pas trop, mais qui a l'air compétent dans ce qu'il fait. Là. C'est pas n'importe qui. Sinon, on parle aussi du... Olatunde Osunanmi, qui a été promu au titre de producteur exécutif. Il a été réalisateur pour certains des épisodes de la première saison. Il a été aussi agi à titre de producteur. Maintenant, c'est au lieu d'être co-producteur exécutif, il est producteur exécutif. Et on parle aussi de Jenny Lumet au titre de co-producteur exécutif. Donc, ça a l'air, comme je dis, c'est du salaire. Ben, je parle surtout de James Duff. Son CV parle de lui-même, je vous irai voir sur IMDb. C'est quelqu'un qui semble être très compétent. C'est pas mal ça pour ce qui est de Discovery. Ah ben non, c'est vrai. Il y a une autre grosse nouvelle de Discovery. Star Trek Discovery va être au fameux All H donc au San Diego Comic Con, donc le gros la grosse salle où les grosses conférences de presse du Comic Con se font. Donc on parle du 20 juillet à 1h30. Tous les membres d'équipage de Star Trek Discovery, Seneca Martin Green, Doug Jones, Chazes Latif, Mary Wiseman, Anthony Rapp, Wilson Cruz, Mary Chifo et Anson Mount, accompagnés de Alex Kurtzman et Heather Cadin. Donc, le panel sera modéré par Tig Notaro, donc je l'avais parlé dans le dernier épisode, donc cette comédienne américaine qui va jouer le chef ingénieur Renault dans la saison 2. Donc, j'ai vraiment hâte. Et aussi, on va avoir droit à une galerie. Donc, l'année dernière, il y avait eu une exposition montrant les uniformes, les costumes, les props de Star Trek Discovery au Comic-Con et aussi à Star Trek Las Vegas. Et là, cette année, on va présenter le Star Trek Discovery Mirror Universe Experience. Au J. Wolf Fine Arts Gallery du 19 au 22, et ça ne nécessite pas de badge du Comic-Con pour y accéder. Donc, ça va pouvoir voir le trône de l'empereur Georgiou, des props et des costumes de l'Empire terrien. La galerie tiendra aussi un magasin Star Trek officiel avec des exclusifs du Comic-Con. Donc, si je pense que Marc, on a peut-être pas mal des chances que ça se trouve aussi à Star Trek Las Vegas.
Espérons.
Donc, c'est des bonnes nouvelles. Avec un peu de chance, on va avoir droit à un mini teaser trailer, un petit peu de scène. Ce serait le fun parce qu'on sait qu'ils ont déjà comme 5, ils sont déjà arrangés à 5 épisodes. Donc, ils ont de quoi faire un petit trailer, là, je pense, nous montrer un petit peu plus. Là. Sinon, ben, au niveau des comics, on va avoir droit à un... Ben, je parlais de Transformers tantôt. IDW a annoncé qu'il va y avoir un crossover entre la série animée de Star Trek et Transformers dans un comic IDW. Ça va être spécial. J'ai hâte de voir ça.
Il y a eu un crossover de Ghostbusters et Teenage Mutant Ninja Turtles.
Mm.
C'était exquis. si on parle vraiment de la vieille série de Transformers, ok, on peut dire.
Ouais, ça ressemble, honnêtement, ça ressemble à ça. Parce que je pense qu'ils vont, tu sais, les costumes puis le style de dessin s'y réanimer pour les personnages de Star Trek. Là. Donc, les Klingons avec l'espèce de tunique mauve, là, entre autres. Là, et on voit le lieutenant Arex et le lieutenant Emress. Donc, on y va pour le kitsch années 70. Fait qu'avec mélangé avec un kitsch années 80, ça pourrait faire un mélange intéressant, je pense.
Moi.
Sinon, George Takei a annoncé un nouveau. Va animer un documentaire qui s'appelle From the Bridge, qui va parler du fandom en général, pas juste Star Trek. On va y trouver, entre autres, Stan Lee, qui va parler des comics, Star Trek, tout ce qui est geek, de comment que le geek a conquis l'imaginaire et la culture populaire. Donc, il y a un trailer qui est disponible. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ça s'appelle From the Bridge, a documentary. Et sinon, on parlait de Tarantino. Et les rumeurs disent que le film de Tarantino serait avec l'équipage du Kelvin Universe, donc avec ceux qu'on est déjà familiers dans les reboots de Star Trek. Pour terminer, donc, le fameux documentaire What We Leave Behind. What We Left Behind, pardon. Donc, pas terminé, mais ils ont ce qu'on appelle en anglais des locked the picture. Donc,
Ils ont tout ramassé.
Ils ont tout ramassé, fait qu'il reste tout ce qui est post-production à faire, donc le licensing pour les clips, la musique, les effets visuels et le gros du documentaire est fait, leurs clips sont choisis, sont placés, tout ce qui reste c'est vraiment la touche finale, la musique probablement aussi. Donc on espère toujours une sortie pour cette année. Ils vont avoir un panel aussi à Star Trek Las Vegas, donc on va peut-être pouvoir avoir droit à quelques exclusivités là-bas. Fait qu'on verra si on a le temps de faire leur panel quand on sera là-bas. Et aussi, Marc, si tu as $500 américains, tu peux passer une soirée en compagnie de Vic Fontaine. Donc on parle de Jimmy Darren. Donc, avec Ira Steven Bear et l'équipe du documentaire qui propose un party privé avec de la cuisine faite maison italienne sélectionnée par Vic lui-même à l'occasion d'un meet and greet. Donc, c'est un peu cher pour moi, malheureusement, mais c'est quand même une belle occasion. Une belle occasion. Donc,
mais on peut annoncer quand même ce qu'on a décidé cette semaine. On s'en va à Vasquez Rock.
Ouais. On va aller
à Vasquez Rock.
Le légendaire lieu où Kirk a combattu le Gorn. Le légendaire lieu où Bill and Ted sont morts dans le deuxième film de Bill and Ted.
Ouais.
Qui était une influence directe de l'épisode de Star Trek.
Avec la même chanson. Avec la même trame musicale.
Donc, probablement que ce qu'on pensait, c'est le mardi, la journée qu'on va quitter, c'est 4 heures aller, 4 heures retour. Et puisque notre vol est comme 11 heures du soir, si on part de bonne heure le matin, on a un auto. On pourra dire qu'on a été en Californie.
Ouais.
Même si ce n'est que pour 3 ou 4 heures.
Ouais.
dans le désert. Mais bon, on va faire une belle petite ride dans le désert. Ça va être
peut-être qu'on se fait pas voler la voiture comme dans voyons, Big Bang Theory.
On va essayer d'éviter ça. Donc, si vous êtes... Honnêtement, si vous ne connaissez peut-être pas ce, c'est peut-être pas ce que c'est, je vous conseille d'aller googler Vasquez Rocks, V-A-S-Q-U-E-Z-R-O-C-K-S. Vous allez voir l'image et vous allez vous replacer tout de suite. Ça a été aussi utilisé pour représenter Vulcain dans le film de 2009 de Star Trek. Là, il y a une longue, longue liste. Là. Je n'avais déjà parlé auparavant. Parce que,
parlant de Vulcain, il faudrait peut-être aller faire un trip à Vulcain.
Vulcain?
Vulcain, ouais. Ben, va dire
au Canada, ça?
La chose étant que c'est moins cher d'aller en avion à Las Vegas qu'en Alberta.
Ouais.
Ouais, mais en Alberta, c'est en territoire canadien. Donc,
ouais, mais ça, ça coûte plus cher.
Fait, mais ça non,
coûte...
mais ça doit se faire en train, en auto, quelque chose.
Le train coûte plus cher. L'auto, oui, mais il faut que ça tente de rouler en tabarnouche parce que ça va être...
Compliqué. En Alberta, c'est loin.
Si on parle de Vulcan, Vulcan Alberta, à partir d'où on est, c'est à 2 secondes, Google va me répondre, à 39 heures de voiture.
Ouais, ok, d'accord, c'est vraiment loin, mais et ça serait quand même cool.
Et la chose étant que c'est à 1 heure de Calgary.
Ouais, ça serait cool, ça, Calgary, j'ai des amis là.
Pendant le Stampede.
Ben, faudrait voir. C'est sûr que ça va être une expérience à faire, mais c'est sûr que, honnêtement, je suis un peu plus... parce que ça a l'air plus comme gimmick, comme truc que... c'est une gimmick pour attirer des touristes plus que d'autres choses, là.
Parce qu'à part le fameux musée, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose là-bas.
Il y a une convention à chaque année. Il y a Vulcan, qui vaudrait peut-être la peine, mais encore là, c'est... comparé à ce qu'on a en allant à Vegas versus, disons, je fais le calcul, donc ça vaut plus la peine de mettre nos efforts pour aller à Baltimore l'année prochaine qu'à Vulcan, malheureusement. Là, c'est vraiment... parce qu'il y a aussi une autre convention que j'aimerais faire, qui c'est pas Star Trek, c'est plus relié à la tech. Là. Il y a quelqu'un que je connais, Linus Tech Tips, qui fait une convention qui s'appelle TechLinked, ou non, en tout cas, il y aura une convention pour les fous d'ordinateur, mais Vancouver, encore là, les billets d'avion, c'est extrêmement cher d'aller d'un bord à l'autre. Puis, pour l'instant, pour moi, ça ne vaut pas encore la peine. Parce que, comme je dis avec Dom, c'est aller quelque part en char, au moins ça, tu peux le splitter à 4 versus un avion que on est obligé de payer chacun notre bord, tu sais. Fait qu'entre splitter 500$ entre 5 personnes puis être obligé de payer 500$ par personne, il y a une petite différence.
Ouais.
Mais bon, c'est assez. Je pense que ça fait assez longtemps qu'on parle. Il est déjà rendu très tard. Ça fait 1h30 qu'on parle. Donc, un petit mot avant de partir, Marc, Pierre?
Un petit mot? Ben... 4 semaines.
4 semaines, on parle de...
4 semaines. Ouais. C'est mon mot de la fin.
Moi, je peux te répondre, en fait, 27 jours.
Ah ouais, un peu moins, maudit négatif.
Ben là, écoute, là, c'est quand même moins c'est...
Non, okay. 4 semaines. C'est 4, c'est moins que 27.
On parle de 18 jours ouvrables.
Ouais. C'est encore mieux, ça.
Ah, ben, moi, je peux dire que dans mes prochains jours, je vais donner plusieurs dates. On va essayer d'aller au SAG Geek, nous autres, le 13 juillet.
Moi, je vais être là avec Hélène, en passant.
Ah, on va essayer de s'y voir.
Ouais.
Est-ce qu'on s'en va passer quelques jours dans le lac? Fait qu'on va essayer de se voir là-bas.
C'est sûr, moi je prends ma passe de toute façon.
Mm-hmm. Après ça, moi c'est sûr que la famille Ghostbuster va être au Cosplay Fest le 27 juillet. Le 28, le samedi. Le samedi 28 juillet à Trois-Rivières, qui dans le fond occupe carrément tout une bonne partie du centre-ville de Trois-Rivières. C'est génial aller là, surtout si la météo est bonne.
La rue principale, là, genre?
Ouais, la grosse rue sur le bord du port, c'est fantastique, là. Il y a tellement de fun à voir là-bas, là.
C'est pas le boulevard des Forges?
Je me sais plus. Faudrait regarder ça, là. Je connais pas très bien la topographie là-bas. Tout ce que je sais, c'est que je parque mon char et on se fait du fun. Et, bien entendu, du 3 au 5 août, je serai à Montréal pour le Tecton, faire des panels. Encore une fois, je vais en faire moins que l'an passé. 18h, c'était beaucoup. Je vais en faire seulement peut-être 8 gros max. Ce qui est pas mal moins, surtout sachant qu'en t'en a besoin de 3, d'en faire 3 normalement. Et bien entendu, je serai aussi au Costé de l'Imaginaire avec la famille Ghostbuster le 25 août, le samedi 25 août.
Wow, je vais peut-être pouvoir t'y rejoindre maintenant que je peux avoir des fins de semaine de libre. Yeah. Ah non, mais c'est vrai, le 25 août? Le 25 août, mon cher, tu sais-tu où est-ce que tu vas être?
À Ticonderoga.
Tu es Ticonderoga cette fin de semaine-là?
Oui.
Cette fin de semaine-là, mon cher.
Je suis pas sûr lequel des deux qu'on va aller finalement.
Bon,
c'est plus fun Ticonderoga. C'est Carl Urban.
D'habitude, on va toujours au Cosplay Imaginaire, c'est une tradition. Mais bon.
De cosplay, je remercie Annie beaucoup pour notre cosplay. Que j'ai hâte qu'on teinte ta couleur, JP.
Ouais, ben moi, sur ma couleur, pour ceux qui veulent faire de la teinture de costume, mettez. Si la recette demande du fuchsia, mettez-en beaucoup moins. C'est une couleur qui flash beaucoup.
Tu travailles fort, ouais.
On essaie de faire un cerise, comme tu décris ça, mon cher Marc, un Pantone.
Ben, 1955. Le Pantone, c'est cerise selon Pantone.
C'est ça, mais c'est parce que le mélange à manier du Bourgogne et du fuchsia. Je sais pas si j'ai mis trop de fuchsia ou c'est. En tout cas, fait que le fuchsia ressort un petit peu trop. Ça fait un bel uniforme mauve. Heureusement que c'est vraiment. Il y a juste deux couleurs. Donc, on va pouvoir refaire une job de teinture. Le noir prendra pas la teinture quand on va baigner l'uniforme dedans. Fait qu'on va pouvoir. On va faire quelques petits tests, puis on. Dom a déjà commencé à voir là, comment réajuster la teinture un peu. Parce que c'est sûr qu'on pourrait le faire comme plus rouge, mais je voudrais quand même qu'il y ait une petite teinte de cerise quand même. C'est un peu le but, là.
Selon moi, avec ce qui va être en dessous, en rajoutant juste un rouge, ça devrait aider pas mal.
Bon, en tout cas,
on va verra. En regardant les événements qu'on a à faire, là, je remarque que le 5 avril 2063, on est censé aller au party de The From Car King faire son watch flight.
Oui, il faut aller à Bozeman, dans l'état du Colorado.
Ouais, capable de s'en reconduire.
Pour fêter mon 89e anniversaire, ça va être bien correct, ça.
Ouais.
C'est bon, ça. Bon, sur ces belles paroles, on va vous laisser en musique sur Mr. Spock de Nerf Herder. Toujours les ondes depuis...
JP, you're my Nerf Herder.
Ah non, c'est toi, Pierre, le Nerf Herder.
Vous étiez à puissance maximale sur ta montre.
Puissance maximale. Donc, merci encore à Dom et à Pierre. Merci à Patrick.
À Dom. Oui, Dom.
Dom et Pierre. Dom? Où es-tu, Dom?
Ah, Dom. Excuse-moi, je suis fatigué. La table me tourne. J'ai chaud. C'est la grande canicule ici. J'ai pas tout
de mes. C'est Marc qui fait salut.
Merci,
là.
JP. Merci, Marc. Merci ça à Patrick plaisir. Qui était parti.
Ben oui.
Et à tous, une très quitte bonne soirée.
Bonne semaine.
Bonne bye.